Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour, bienvenue. Vladimir Poutine a été réinvesti aujourd'hui à la présidence de la Russie pour son 4e mandat courant jusqu'en 2024 lors d'une cérémonie solennelle au Grand Palais du Kremlin. Je considère comme mon devoir et comme le sens de ma vie de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent et pour son avenir, a-t-il déclaré après avoir prêté serment la main sur la Constitution. Réélu en mars avec 76,7% des voix, soit le score le plus élevé de son arrivée depuis son arrivée au pouvoir, M. Poutine s'est imposé plus que jamais comme l'homme fort d'une Russie qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix de tensions croissantes avec les Occidentaux. Le mouvement chiite Hezbollah, l'un des principaux alliés de l'Iran au Moyen-Orient, semble ce lundi en passe de confirmer son emprise sur la scène politique libanaise au lendemain des premières législatives près d'une décennie dans le pays. Les estimations du parti chiite, quelques heures après le début du dépouillement, indiquent que le mouvement a raflé la mise quasiment partout où il était présent. Le scrutin a par ailleurs été marqué par un faible taux de participation ainsi que par l'émergence d'un mouvement de la société civile contestant les partis au pouvoir qui devraient remporter 2 sièges au Parlement, qui compte lui-même 128 sièges. L'isolement carcéral prolongé de prisonniers politiques et les violences physiques auxquelles ils sont soumis dans les prisons égyptiennes constituent un acte de torture, selon l'ONG Amnesty International, dans le résumé d'un rapport publié aujourd'hui. Le régime du président Abdel Fattah al-Sissi est régulièrement pointé du doigt par les organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent la répression des opposants et des libertés individuelles. Les autorités égyptiennes nient ces violations, accusant les ONG d'être politiquement orientées. Les premières municipales libres de Tunisie ont été marquées par une forte abstention dimanche, les Tunisiens se disant démobilisés par les difficultés économiques et politiques lors d'un vote jugé crucial pour enraciner la démocratie dans l'unique pays rescapé du printemps arabe. Le taux de participation à ce scrutin, proportionnel à un tour qui s'est déroulé sans incident majeur, n'a atteint que 33,7% au niveau national et seulement 26% à Tunis, selon l'instance en charge des élections, l'ISIE.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Un léopard activement recherché aujourd'hui par les autorités ougandaises, le félin a dévoré le fils âgé de 3 ans d'une garde forestière travaillant dans le célèbre parc national Queen Elizabeth en Ouganda. L'enfant avait été confié à une nounou dans les appartements du personnel sans enclos dans le parc lorsqu'il a été emporté par le léopard. C'était le vendredi soir. La politique maintenant au Burkina Faso, le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré a élu dimanche à sa tête Eddy Kamoigo à l'issue de son congrès de 2 jours. Le CDP, qui connaissait des querelles de leadership depuis sa perte de pouvoir en 2014, dit être désormais unifié pour revenir en 2020 aux affaires. Compte rendu du correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Le palais des sports du quartier Ouagadougou était plein. Tous des militants du CDP. Après 2 jours de congrès, Eddy Kamoigo, 54 ans, a été élu président du parti.
Au soir de ce congrès, je tiens à vous dire que le CDP est un parti fort, qui a beaucoup de ressources et qui a la capacité d'une résilience que vous n'imaginez pas. Nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé. Et nous sortons avec une équipe plus grande et plus conquérante.
Près d'une vingtaine de candidats étaient en lice pour prendre la tête de ce parti, fragilisé par des querelles de leadership. Mathias Ouedraogo, nouvellement élu secrétaire national à la formation des jeunes, élèves et étudiants.
Vous avez vu un congrès apaisé. C'est le CDP et le Burkina qui gagnent à travers ce congrès. On a mis l'intérêt supérieur en avant et les consignes du fondateur Blaise Compaoré étaient au-dessus de tout. Les contentieux qu'il y avait entre nous, aujourd'hui on a pu se retrouver ensemble et on a unifié une équipe forte, une équipe qui va attaquer 2020 avec espoir.
Les militants du CDP se disent confiants qu'à la présidence présidentielle de 2020, le parti va regagner le palais de Kossiam.
Tout est rentré en ordre, hein. Tout est rentré en ordre. Et je suis 100% sûr, 100% sûr qu'on va passer.
Ils ont tiré leçon de la gestion passée, donc ils vont prendre note pour pouvoir mieux se préparer en 2020.
Ce congrès est fini, certes, mais le travail reste sur le terrain. Nous avons en face de nous un adversaire de taille. Ces gens ne me font pas peur. Je serai sur le terrain et je demande l'accompagnement de la jeunesse.
Blaise Compaoré, absent physiquement mais présent dans les esprits, l'homme qui a fui s'est réfugié en Côte d'Ivoire, où il a pris la nationalité ivoirienne, a été longuement ovationné par les militants. Blaise Compaoré a même été fait président d'honneur. Alpha Yago, secrétaire national chargé du mouvement associatif.
C'était le combat de nombreux blaisistes et c'était la moindre chose qu'on pouvait lui faire en lui rendant cet hommage. Il était déjà consacré fondateur du parti lors des derniers congrès. Cette fois-ci, il a été au relais du titre de président d'honneur et qui a un rôle dans les statuts. Il reste donc le ciment de l'unité de la cohésion au sein du parti.
Les nouveaux dirigeants du CDP comptent déjà se mettre au travail pour la reconquête du pouvoir perdu par une insurrection populaire en octobre 2014. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le président malien sortant Ibrahim Boubacar Keïta a été investi dimanche candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet par une coalition de près de 70 partis lors d'une réunion à Bamako. Une cérémonie d'investiture sera organisée à une date non précisée, a déclaré Boukari Terita, le président du RPM, la formation présidentielle et principale composante de la coalition soutenant M. Keïta lors de cette réunion. Le chef de l'État malien, âgé de 73 ans, élu en 2013 pour 5 années, n'était pas présent à cette réunion tenue devant 3000 personnes. De nouvelles violences ont éclaté dans le nord du Nigeria, faisant 45 morts au cours de violences entre gangs de voleurs de bétail et population, ont rapporté dimanche des membres de la milice locale, Bagassi Koura.
45 corps ont été retrouvés dans la brousse, a expliqué à l'AFP un membre de la milice civile du district de Birnin Gwari dans l'état de Kaduna. Les bandits ont attaqué samedi les habitants qui défendent le village. Ils ne cessent d'organiser des kidnappings contre rançon, des vols armés et de dérober le bétail, a-t-il ajouté. Le commissaire de police de l'état de Kaduna, Austin Iwara, a confirmé l'attaque et le bilan de 45 morts, sans préciser s'il s'agissait de miliciens ou de bandits, vraisemblablement issus de l'état voisin des Zamfara. Le village de Gwaska, où ont eu lieu les exactions, se trouve en pleine forêt et l'accès est très difficile, a-t-il expliqué dans un organe de presse local. Pour l'instant, tout ce que l'on peut dire, c'est que 12 personnes ont été enterrées samedi et 33 dimanche, a-t-il ajouté. Selon un communiqué de l'Association des défenses des habitants de Birnin Gwari, qui appelle la population au calme, de nombreuses maisons ont été brûlées et des femmes et des enfants ont été tués dans cette nouvelle attaque. La semaine dernière, des échanges de tirs entre ces milices et des voleurs de bétail venus de l'état voisin des Zamfara avaient fait 13 morts et les violences ne cessent de s'amplifier dans cette région depuis plusieurs semaines.
Vous écoutez la voix de l'Amérique en direct de Washington. Des ouvriers ont installé lundi à Jérusalem les premiers panneaux indiquant la direction de l'ambassade des États-Unis qui ouvrira le 14 mai à la suite d'une décision saluée comme historique par Israël et largement condamnée par la communauté internationale. Rompant avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international, le président américain Donald Trump a annoncé le 6 décembre la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade actuellement située à Tel Aviv. L'ambassade doit être inaugurée en grande pompe la semaine prochaine pour coïncider avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Au moins 31 combattants pro-régime ont été tués en Syrie dans une contre-offensive des djihadistes du groupe État islamique retranché dans leur ultime réduit du sud de la capitale Damas, a annoncé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Les forces de Bachar al-Assad pilonnent depuis plusieurs semaines le camp palestinien de Yarmouk et des quartiers voisins où se trouve l'État islamique, notamment celui de Hajar al-Aswad, dans la périphérie sud de Damas. Des combats au sol opposent également les deux camps. Plusieurs personnes ont été tuées ou blessées aujourd'hui dans deux frappes aériennes successives sur les bureaux de la présidence yéménite utilisés par les rebelles houthis dans le centre de la capitale Sanaa. Ces bureaux sont situés dans le quartier central Tahrir, l'un des plus animés de la capitale yéménite pendant l'ouverture des bureaux et des commerces. Et puis le procès d'un pasteur américain accusé en Turquie d'activités terroristes et d'espionnage a repris aujourd'hui dans l'ouest du pays, arrêté en octobre 2016. Andrew Brunson, qui dirigeait alors une petite église protestante à Izmir, risque jusqu'à 35 ans de prison. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochain journal dans 50 minutes. Il vous sera présenté par Henri Francis. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.